RCF, Thierry Dely.
Bonjour à tous, en ce dimanche matin, nous sommes le 1er décembre 2024 et nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent sur RCF Reims-Ardennes. Très heureux d'être avec vous pour vous accompagner maintenant jusqu'à 11h avec quelques rendez-vous à noter pour la prochaine heure à venir, notamment le patrimoine local avec Marie-Claire Ruiz. Elle nous parlera du sculpteur René de Saint-Marceau avec son invité Lucette Turbet. Ce sera dans une dizaine de minutes maintenant. Parole protestante avec le pasteur Pascal Geoffroy au micro d'Anthony sur l'intérêt de se pencher sur l'histoire ancienne. Parole protestante, ce sera à 9h25. Notez à partir de 10h20 l'évangile de ce dimanche avec le père Vincent Didizia pour la lecture et le commentaire de l'évangile de ce premier dimanche du temps de l'Avent. On retrouvera le temps des maîtrises avec Laetitia Stens juste avant 10h. Aujourd'hui, Christophe Bergossi, directeur de la maîtrise de Metz, sera son invité. Tout de suite, on démarre en musique sur RCF Reims-Ardennes avec Mathieu Cossier, comme chaque dimanche matin, pour Pop Louange.
Jubilons, 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 jubilons pour le Seigneur, vive de joie, puisons, puisons.
Jubilons, chanson du chanteur-compositeur Mathieu Cossier. Retrouvons-le maintenant pour l'émission Pop Louange. Mathieu Cossier nous présente des artistes chrétiens qui allient dans leur musique foi et joie, dynamisme et profondeur, intériorité et modernité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Pop Louange. Aujourd'hui, deux extraits de temps de louange qui ont été donnés par MLK Musique. Le premier extrait, c'est une chanson qui s'appelle Glorious, à ne pas confondre avec le groupe de musique du même nom. Là, on est bien sur le titre de la chanson et c'est interprété par MLK Musique. C'est parti, Glorious.
Louons, sautons, acclamons-le, célébrons-le,
MLK Musique qui nous interprétait Glorious. Oui, nous sommes créés pour glorifier le nom de Jésus. Et tout de suite, un autre extrait de MLK avec cette fois-ci le nom de Jésus et la chanteuse, c'est Sinak.
Oh,
le nom de Jésus avec Sinac en chanteuse principale, accompagnée du groupe MLK Music, qui donne bon nombre d'interprétations de morceaux. Je vous invite à aller les découvrir davantage sur les réseaux sociaux en tapant simplement MLK Music. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine en vous invitant à garder votre regard centré vers Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve, Dieu qui vient nous rejoindre au cœur de nos faiblesses, au cœur de nos difficultés, et qui nous invite à rentrer pleinement dans notre vocation de louangeur, que chacun, au lieu de regarder son nombril, nous soyons amenés à regarder le nom de Jésus, nous qui sommes créés pour le glorifier et humblement nous émerveiller avec lui de tout ce qu'il nous donne dans la vie au quotidien. Excellente semaine à chacune et à chacun.
Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance.
Merci d'avoir écouté l'émission Pop Louange. Elle était présentée par le chanteur-compositeur Mathieu Cossier. Retrouvez ses albums et son actualité sur la chaîne YouTube Pop Louange, ainsi que sur son site mathieucossier.com.
Plus de ta puissance, je veux plus de toi en moi, pour ma vie, mes combats, plus de toi.
C'était Pop Louange avec Mathieu Cossier pour ce premier dimanche du temps de l'Avent sur RCF Reims-Ardennes. Restez fidèles à l'écoute de nos programmes puisque nous vous proposerons différents rendez-vous pour ce temps de l'Avent. Il est tout juste 9h13 et tout de suite c'est le patrimoine local que je vous propose de retrouver avec Marie-Claire Ruiz et son invitée Lucette Turbet pour nous parler du sculpteur René de Saint-Marceau.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Monsieur René de Saint-Marceau. Vous savez que Saint-Marceau est à l'honneur à Reims depuis quelques semaines avec une très belle exposition à Carnegie. Nous allons parler de cette exposition. Et pour cela, nous recevons Madame Lucette Turbet, qui est la présidente fondatrice de cette association. Bonjour madame.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Je pense que vous êtes une présidente fondatrice heureuse, puisque
oui,
vous battez depuis 1993.
Plus que ça même. Oui. Mais 1993 est la date à laquelle on a parlé de René de Saint-Marceau, vraiment dans la ville de Reims. Donc c'est pour ça, mais moi je travaille sur René de Saint-Marceau depuis, on va dire 20 ans, pour ne pas faire trop long.
D'accord. Nos auditeurs ont pu réécouter vos émissions que nous avions diffusées déjà l'année dernière,
ouais,
sur la vie, l'œuvre de René de Saint-Marceau. Et surtout, on avait beaucoup insisté pour dire qu'il ne faut pas confondre le sculpteur et
avec
l'homme
son
politique.
Grand-père,
voilà.
Oui.
Donc, j'espère que nos amis l'ont compris. Et donc, partons pour l'exposition. Donc cette exposition, vous pouvez nous rappeler le lieu, les
oui,
dates.
La bibliothèque Carnegie, dite bibliothèque patrimoniale, ça n'est pas pour rien. Elle a vraiment une place très importante à Reims, puisqu'elle récupère, elle engrange et elle exploite tous les documents qui ont trait au patrimoine de Reims. Et René de Saint-Marceau fait partie du patrimoine de Reims.
Tout à fait. Il y a même une association, les Amis de la Bibliothèque, qui participe justement à ce travail de constitution, de sauvegarde
tout
du patrimoine.
Okay.
Cette exposition donc à Carnegie est visible jusqu'à quand ?
Alors elle est visible jusqu'au 4 janvier 2025, donc on a encore un petit peu de temps. Elle a beaucoup, beaucoup de succès. Alors, on peut y venir aux heures d'ouverture. Et puis, il y a encore beaucoup d'animation tout autour.
Ça fait déjà un certain temps donc qu'elle commence à être visitée. Vous avez eu des retours un petit peu positifs? Enfin, comment,
oui,
quel retour, par
alors,
quel biais?
Quel retour? Eh bien, ce sont tous ceux qui visitent l'exposition, qui donnent leurs impressions au personnel de la bibliothèque. Et pour le moment, c'est vrai que nous avons des retours extrêmement positifs. Notamment des personnes, par exemple, qui habitent le boulevard Saint-Marceau. Et dans la dernière visite, une des personnes m'a dit « Mais le boulevard Saint-Marceau, bon, moi j'y passe depuis 40 ans. Ben, » Je lui dis « Vous avez regardé les plaques ?»« Non. Avez-vous regardé les prénoms sur la plaque ?»« Eh bien non, il n'y a pas de prénoms sur les plaques. » Et je lui ai dit « Nous avons essayé de mettre le nom de René Saint-Marceau dans la ville. » Et tout près du boulevard Saint-Marceau, il y a un petit square. Et avec la ville, nous avons travaillé à l'installation de ce petit square. Et il y a ce qu'on appelle un totem. Donc, tout en bas de l'avenue Clémenceau. Vous voyez,
d'accord.
Il y a un tout petit... Enfin, c'est modeste, mais au moins, le nom de René de Saint-Marceau, son image, une statue, sont là pour affirmer la présence de René de Saint-Marceau, statuaire, sculpteur, dans la famille Saint-Marceau, qui est là parce qu'elle a le grand-père qui a été politique et le père qui a quand même développé une maison de champagne très,
très célèbre. Oui. Alors, cette exposition, je vais rappeler son titre qui est important, « Dans l'intimité du sculpteur René de Saint-Marceau à travers ses lettres ». Donc,
oui.
C'est ce que je vais vous demander maintenant de vous expliquer. Comment vous exposez des lettres, c'est pas évident. Comment avez-vous procédé?
Pas du tout. Comment ces lettres déjà sont arrivées là? Donc, je n'ai pas le temps peut-être de faire toute l'histoire. Mais disons que les lettres ont été achetées par la Bibliothèque Carnegie sur une alerte de notre association. Ce
D'accord.
sont deux de nos adhérents qui ont des, on appelle ça des alertes Saint-Marceau, et à qui on a signalé qu'il y avait ce paquet de lettres. Il y en avait 29. Or, 29 lettres, c'était beaucoup trop important pour le budget de notre association, parce que sinon on aurait acheté et donné, bien sûr. Donc la bibliothèque a trouvé, parce qu'il y avait aussi le musée, mais le musée, ce sont plutôt les œuvres, ce ne sont pas les documents.
Oui.
Donc, alors, cette exposition, elle a cette originalité de grouper des documents et des statues et des œuvres. C'est exceptionnel, parce que dans un musée, vous avez des sculptures,
oui.
Et à Carnegie, dans les bibliothèques, vous avez des documents. Et là, nous avons les deux rassemblés. Et donc, dans les lettres, René de Saint-Marceau, qui s'adresse à Madame de Saint-Marceau, parle de façon détournée de ses œuvres, parce qu'il est en train de travailler, et quand son épouse est absente, il lui raconte tout. Dans les lettres, il y a de tout, mais il y a aussi, alors bien sûr, son amour pour Marguerite, nous en parlerons, son attachement à Reims, qui est très fort et qui se marque dans les lettres, et le travail qu'il est en train d'effectuer sur les œuvres, c'est très intéressant.
Alors, cet amour, vous nous avez alléché, là. Un petit peu d'amour, c'est quoi?
Un petit peu d'amour. Pour Marguerite, vous voulez dire?
Oui.
Alors, il faudrait que je vous lise un petit extrait. Est-ce que
Par
je
exemple
peux? Est-ce que je peux? Alors, je tourne mes pages. Alors, c'est une lettre datée entre 1894 et 1901, parce que certaines des lettres ne sont pas datées. Mon adoré, je m'enduis plus que je ne puis te l'écrire, surtout le soir. Et le matin au réveil. J'en avais envie de pleurer ce matin de ne pas entendre ta voix m'appelant. C'est un très gentil garçon, Pigalle. Je serais enchantée, comme je te l'ai télégraphié, de l'avoir à la maison. Et il continue sur toutes sortes de sujets. Je continue un tout petit peu pour voir
oui.
le contenu des lettres. Ton fils Jacques a travaillé toute l'après-midi à son esquisse. Quant à Georges, il a dû aller à un vélodrome avec Bentley. La voiture est venue le chercher à 2 heures après avoir conduit mes parents à Saint-Gène. C'est te dire que ma mère est mieux. J'y dîne ce soir avec Georges et nous irons à 9 heures voir ta belle-sœur chez laquelle Jacques dîne avec ton père. Donc vous voyez les événements
familiaux famille.
Aussi. Il est allé ce matin au cimetière. C'est du cercle que je t'écris. Charlotte l'a fait monter en haut et il a vu mon esquisse. C'est la seule chose de moi qui lui ait tout à fait plu. Je crois, dans la maison. Je l'ai prié de n'en rien dire. Il trouve que tu es bien plus jeune que ton buste. qu'il ne comprend pas. Je vais retrouver les camarades du jeu, qui ne mourront pas longtemps s'ils continuent à me gagner les bénéfices que j'ai faits. La dernière phrase. Je t'idolâtre et je t'embrasse partout, follement. Tu ne me dis rien de ta santé et de cette douleur. Et c'est la dernière phrase. Donc, il y a de tout dans ces lettres. On passe d'un sujet à l'autre. Mais il y a toujours, toujours l'attachement de René pour Marguerite et vice-versa.
Et donc, ils ont trois enfants, c'est ça ?
Ce ne sont pas les enfants de René de Saint-Marceau. Ce sont les enfants de Marguerite qu'elle a eus avec son premier époux, Eugène Bonny, qui est décédé à une cinquantaine passée, très jeune finalement.
Bien, alors, tout un ensemble de lettres, il y a des thématiques, vous les avez regroupées, de quelle façon ?
Alors, on a essayé, justement, enfin, on a essayé, ça n'est pas moi, c'est l'équipe de la Bibliothèque Carnegie, à laquelle vraiment je rends un hommage appuyé, parce qu'ils sont arrivés, au travers de tous ces thèmes, à en trouver, disons, trois principaux, que j'ai un petit peu évoqués, c'est-à-dire l'attachement de René à Reims, l'attachement de René à Madame de Saint-Marceau, à son épouse, et puis le travail qui est décrit au travers des lettres, le travail des œuvres.
Et il y a des œuvres particulièrement illustrées par ces lettres ?
Bien sûr, bien sûr.
Par exemple ?
Alors, par exemple, nous avons une tête de la vigne, un bus, j'en parlerai après. La tête de la vigne, qui se trouve à l'intérieur de l'hôtel de ville,
oui.
Dans le jardin au milieu. Eh bien, savez-vous que cette tête qui est grandeur nature, qui est en plâtre, on ne l'a retrouvée que depuis 2016.
Seulement.
Seulement. Elle est là depuis le début, depuis les années 1920. Mmh. Mais on ne l'avait pas attribuée, elle n'est pas signée. Et c'est au cours de ce qu'on appelle le recollement, c'est-à-dire l'inventaire au musée, qu'on a fait des rapprochements comme ça et que Saint-Marceau, dont on reparlait à nouveau, on s'est dit, mais oui, mais elle ressemble, et on a comparé, et c'est tout à fait ça. Elle n'est pas signée, mais c'est bien le plâtre de la tête de la vigne qui est à l'hôtel de ville de Reims, par exemple.
Par exemple. Alors, vous nous appâtez un petit peu avec tout cela par rapport à cette belle exposition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les manifestations qui ont lieu autour de cette exposition ? Certaines sont déjà passées,
ah oui,
mais il y en a d'autres à venir.
Bien sûr, bien sûr. Donc, les passées, on n'en parle pas. Alors, une conférence, samedi 30 novembre à 15h, par Madame Antoinette Lenormand, qui est une référence en matière de sculpture au XIXe siècle. Et le samedi 7 décembre, à 15h encore, le portrait chez René de Saint-Marceau, intime, mondain ou commémoratif. Et ne pas oublier un atelier pour les jeunes, parce qu'il y a à la bibliothèque, on peut y aller avec des enfants, il y a un livret pour les enfants. Et donc, j'aurais bien voulu en donner quelques exemples pour les enfants, mais
non,
on n'a
mais nous n'avons pas le temps. Il faudra se déplacer à la bibliothèque. Je ne peux qu'encourager tous nos auditeurs à y aller. Merci beaucoup pour cette belle présentation.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
En ce dimanche matin, premier dimanche du temps de l'Avent sur RCF Reims-Ardennes, il est déjà 9h25. C'était donc à l'instant le patrimoine local avec Marie-Claire Ruiz et son invité Lucette Turbet. Et tout de suite, je vous propose de retrouver le pasteur Pascal Geoffroy au micro d'Anthony dans Paroles protestantes, aujourd'hui sur le thème de l'intérêt de se pencher sur l'histoire ancienne.
Paroles protestantes, émission proposée par les églises protestantes unies de Reims-Épernay, de Châlons-en-Champagne et de Charleville-Mézières.
L'intérêt de se pencher sur l'histoire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le pasteur Pascal Geoffroy de l'église protestante unie de Reims-Épernay.
Bonsoir.
Bienvenue. Le thème aujourd'hui porte sur l'intérêt de se pencher sur l'histoire. Que feront les églises en 2025
Voilà. Voilà 2025 qui se profile avec en effet un rendez-vous important pour toutes les églises chrétiennes, puisque ça sera un anniversaire, ce sera le 1700e anniversaire de la confession de foi qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople et qui présente comme caractéristique d'être reconnu donc par les églises d'Occident et les églises d'Orient, voilà, par la totalité des églises.
Si j'ai bien compris, là, c'est l'Église universelle.
Voilà, oui, c'est un peu la traduction du mot concile qui veut dire qu'on tient conseil, on se réunit pour délibérer, pour réfléchir, pour décider. Après la Pentecôte, on voit dans le livre des Actes des Apôtres et les Épîtres comment se déploie l'Évangile à partir d'Israël et va aller jusqu'aux confins de l'Empire romain. Et donc il y a cette traversée des cultures qui borde tout le parcours méditerranéen. Et chaque fois, l'Évangile est transposé dans une nouvelle langue, avec d'autres référents religieux, avec d'autres, un autre univers mental. Et donc ça fait que la même foi chrétienne se retrouve exprimée parfois en des termes différents d'une région à l'autre. Et qui dit différent dit aussi un peu conflit parfois, parce qu'on pense que la manière de penser de l'autre, la manière de dire les choses, est peut-être pas aussi juste que la mienne. Donc, d'une région chrétienne à une autre région chrétienne, mais qui s'exprime à travers une autre langue, une autre culture, avec d'autres représentations mentales et religieuses, eh bien, voilà, on ne se comprend pas toujours. Et donc, ça rend nécessaire de se concilier les uns avec les autres, de se réunir, pour réfléchir aux points qui font difficulté, parce que les mots, les notions ne sont pas toujours traduisibles de la même manière, ou ils orientent même la pensée ensuite.
Vous dites qu'un concile, c'est une réunion de différentes églises, c'est ça?
C'est ça. Alors, il y avait des conciles un peu de petites régions, de grandes provinces, et puis de grandes régions. Et le concile de Nicée, eh bien, est celui qui va réunir en premier de très nombreux représentants d'Orient et d'Occident. Et il fait référence parce qu'il est... Il est commun à ces deux grandes familles d'églises, et voilà, et il est dit œcuménique ou universel parce qu'il exprime la totalité de la foi. Voilà, il s'adresse, il représente la totalité de la foi de l'Église, voilà, à un moment précis.
Pouvez-vous dire à nos auditeurs pourquoi justement réunir un concile et est-ce qu'il y a un rythme? Parce que là, on a parlé de 2025, mais comment cela se détermine en fait? À quel moment doit-on avoir un concile et qui décide?
Oui, c'est une très bonne question. Au fond, il n'y a pas de rythme précis parce qu'on réunit un concile quand il y a un problème qui surgit. Et on ne peut pas tellement planifier à l'avance les problèmes qui vont surgir. Donc c'est quand un problème surgit, et au fond c'est un peu le principe de subsidiarité, hein, avant la lettre. C'est-à-dire là où le problème peut être réglé localement, on le règle localement. Et puis s'il faut le régler à un niveau plus vaste, ben on va réunir les églises de toute une région, et puis on fera un concile régional. Et puis si vraiment il y a une question qui est particulièrement difficile, particulièrement grave, eh bien on réunit le concile le plus grand possible. Donc la vie conciliaire, il n'y a pas de rythme, elle naît quand il y a des problèmes et des difficultés.
Et ça se situe donc à différents niveaux, oui. D'ordre, en fait, on peut dire géographique ou d'ordre... Il y a des institutions derrière ça ou il y a des... Est-ce que c'est...
Eh bien, oui, c'est vraiment formidable, Anthony. Il n'y a pas d'institution derrière cela parce que l'institution de l'Église est en train de naître. Elle est en train de se forger là. L'institution qui va ensuite se développer pour devenir l'Église catholique romaine, et puis avec le schisme avec les protestants, enfin voilà, toute cette évolution-là. Mais effectivement, l'institution de l'Église se met en place dans ces premières années où, comme il faut régler des problèmes, eh bien, on va se réunir, on va prendre des habitudes géographiques, on va délimiter ce qui peut-être un jour deviendra des diocèses, voilà, et puis tous ces diocèses vont eux-mêmes s'organiser en une structure un peu plus vaste, voilà, donc qui sera un archidiocèse, voilà, petit à petit, ben, ça va se mettre beaucoup de temps, mais se met en place l'institution de l'Église à travers cette nécessité de se rencontrer, puis de respecter des avis qu'un niveau a émis, parce que c'était sa fonction, son attribution. Donc c'est en train de se mettre en place à ce moment-là.
Vous avez évoqué tout à l'heure qu'effectivement, un concile se met en place en fonction des problèmes. À l'issue donc du concile, y a-t-il un document, une forme, on va dire, qui va concrétiser ce qui était décidé, ce qui était accepté, les questions que l'on reporte ou comment ça se passe.
Eh bien, voilà, effectivement, un concile va se prononcer sur des tas de sujets, des sujets disciplinaires, des sujets de moralité ou d'immoralité, des sujets de doctrine, des sujets catéchétiques, voilà, des sujets de discipline intérieure, des conflits, voilà, des sortes de tribunal ecclésiastique aussi. Donc c'est tout ça un concile. Et puis donc il délibère sur tous les sujets à l'ordre du jour, et puis il prend des décisions. Voilà, on appelle ça généralement des canons. Et c'est à l'origine donc du droit canonique qui là aussi se met en place à travers cette histoire qui commence très modestement mais qui commence très sûrement avec les premières réunions des églises chrétiennes en Asie mineure. Alors si vous, peut-être je peux prolonger un petit peu, au synode de Nicée, il y avait plusieurs problèmes à régler. Il y avait des problèmes, par exemple, de date de calendrier. On pourra en parler lorsqu'on s'approchera de Pâques, puisque ça concerne Pâques, et que cette année Pâques tombera le même dimanche pour toutes les églises d'Occident et d'Orient. Et il y avait des problèmes donc de calendrier pour fixer la date de Pâques, il y a des problèmes de doctrine, c'est celui pour lequel la confession de foi, que nous appelons symbole de Nicée-Constantinople, a été écrite. Elle a donc été écrite et promulguée, le canon a été promulgué en 325, et puis comme le sujet dont je vais vous entretenir est un sujet difficile, ça n'a pas clos le débat, ça l'a au contraire amplifié, et donc il a fallu un autre synode en 381 à Constantinople pour prendre de nouvelles décisions sur le contenu de la foi chrétienne.
Vous m'avez dit à un moment que c'est évidemment pour répondre à des problèmes. Est-ce que des écrits ont été consignés quelque part et qui fait référence aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples?
Alors oui, alors bien sûr, on a en particulier tout ce qui concerne la date de Pâques. On a le symbole lui-même de Nicée-Constantinople et probablement d'autres choses, mais là je ne suis pas assez calé dans cette science historique documentaire pour vous répondre. Mais comme la prochaine fois nous reprendrons l'étude du symbole de Nicée-Constantinople, je me renseignerai.
Je vous remercie. Je rappelle donc aux éditeurs qui nous a rejoints donc en cours de l'émission que notre invité aujourd'hui, c'est Pascal Geoffroy, donc pasteur à l'Église protestante unie de Reims et Pernay, et le thème qu'il a développé, c'est l'intérêt de se pencher sur l'histoire. Merci pour ces paroles, merci d'être venu à notre invitation, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, vivez dans la paix du Christ.
C'était Parole protestante, émission réalisée par l'Église protestante unie de Reims et Pernay.
pris les cendres. Il m'a suffi de lever mon regard. En un instant, tout le reste a disparu. Pour mes peurs, il n'y a plus aucune place. Car ton esprit dévorant est répandu. Dieu me défense. Qui combat pour moi? Toujours vainqueur, je sais.
C'était le collectif Cieux ouverts, un instant sur RCF France Ardennes avec ce titre victorieux. Il est tout juste 10h20, c'est l'heure pour nous de retrouver et d'accueillir le père Vincent Dilizia pour l'évangile de ce dimanche, premier dimanche du temps de l'Avent.
Bienvenue en ce temps de l'Avent, en ce début d'année liturgique, chers amis d'RCF, Reims Ardennes, pour l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, en Saint-Luc, au chapitre 21. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue, qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà, chers amis, nous commençons donc une nouvelle année avec toute l'Église universelle, centrée sur ce que on nous propose comme année sainte, tous les 25 ans, une année centrée sur l'espérance. Et l'espérance au milieu de tout ce que Jésus décrit, qui n'est rien d'autre que notre vie actuelle, que la vie de son temps, que la vie de tous les temps. Rien n'est pire qu'avant, rien n'est mieux qu'avant. C'est le monde tel qu'il est. Et Jésus est d'un grand réalisme parce qu'il s'est incarné. Il parle de sa venue, et sa venue c'est entre autres, pas seulement, mais entre autres à Noël, à la crucifixion, à la croix, à sa résurrection. C'est sa venue, comme il dit, à travers des signes. Il nous parle du soleil, de la lune et des étoiles. Le soleil qui réchauffe, mais qui est aussi, au lieu de se réjouir, un lieu de combat et de réchauffement extrême en ce moment, comme en d'autres périodes de l'histoire. La lune qui a ses influences mystérieuses, que nous savons, que nous ne maîtrisons pas, mais qui évoque aussi la nuit de nos vies, le repos nécessaire de nuit qui n'est pas toujours possible. Et les étoiles qui nous rappellent aussi toutes ces questions d'horoscope, de constellations, mais aussi à travers Abraham, toutes les générations qui sont aussi nombreuses que les étoiles du ciel, et donc toutes les questions liées aux générations qui nous suivent, aux enfants qu'on ne veut pas, qu'on veut moins, tous ces signes qui posent question. Jésus réaliste aussi, quand il nous parle du fracas de la mer et des flots, c'est-à-dire toutes les catastrophes que nous connaissons, mais qui ont toujours existé. Nous les connaissons plus parce que c'est notre temps et parce que peut-être nous y sommes un peu plus responsables. Et puis les puissances des cieux qui seront ébranlées. C'est cette panique, dit Jésus, par rapport à l'avenir, parce que peut-être que la vision de Dieu reste floue, est devenue floue, elle a disparu, elle est altérée. Et si on s'en remet à soi seul, à soi tout seul, eh bien c'est la panique devant l'avenir. Là-dedans, où est l'espérance? Où, comment allons-nous cultiver l'espérance? Comment allons-nous recevoir l'espérance comme don de Dieu, comme vertu théologale, comme on dit dans l'Église? Comment en témoigner? Alors Jésus nous dit que le Fils de l'homme vient de trois façons assez curieuses, c'est un peu énigmatique. Ce Dieu qui est proche, qui est tendre, qui est bienveillant, qui traverse avec nous nos vies, qui ne les regarde pas de l'extérieur comme le mal qui est toujours de l'extérieur, qui ne rentre pas dans nos vies, mais qui nous accuse. Eh bien, Dieu vient à travers une nuée, avec puissance et avec grande gloire. Dit Jésus, la nuée, c'est quoi? C'est le brouillard. C'est-à-dire que quand Dieu vient, c'est pas toujours clair. Il ne s'impose pas. Il ne vient pas de façon mathématique et sous forme de preuve. C'est une nuée. Puis il vient avec puissance. Et la puissance de Dieu, nous savons, c'est sa faiblesse. Il ne vient pas avec de l'esbroufe, en la ramenant. Il vient petit, pauvre, comme à Noël. Et il vient avec grande gloire. C'est-à-dire qu'il vient avec la grande gloire, c'est le poids d'amour infini de Dieu. Il vient avec amour. Donc il vient dans le brouillard, avec sa faiblesse, qui est sa force, et avec amour. C'est comme ça qu'on reconnaît la venue de Dieu, au milieu de toutes les autres choses qui sont plutôt à nous épater, à nous décourager, à nous en mettre plein la vue. Et du coup, Jésus donne aussi trois attitudes du cœur pour le recevoir. D'abord, un cœur qui n'est pas lourd. Ce cœur lourd de consommation, il nous parle des soucis de la vie, des beuveries, la consommation. Ça veut dire un cœur qui est capable de regarder à l'intérieur et pas un cœur qui s'arrête à la surface. Un cœur qui regarde à l'intérieur. Ensuite, prier, c'est-à-dire un cœur qui regarde d'en haut ce qui se passe, du côté de Dieu. Puis un cœur qui veille, c'est-à-dire la veille, c'est les uns les autres qui nous aidons à veiller. Tout seul, c'est pas évident. Donc regardez ensemble. Voilà trois grandes attitudes spirituelles. Regardez à l'intérieur, regardez d'en haut, regardez ensemble. Pour un Dieu qui vient dans le brouillard, dans la petitesse et dans l'amour. Bon temps de l'Avent à tous.
Merci à vous, Père Vincent Dilizia, pour la lecture et ce commentaire de l'Évangile du dimanche pour ce premier dimanche du temps de l'Avent sur RCF Reims-Ardennes. Il est 9h46, presque 47. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Je vous propose maintenant d'accueillir Laetitia Stens pour le temps des maîtrises. Aujourd'hui, direction la maîtrise de Metz pour y retrouver son directeur, Christophe Bercossi.
Bonjour et bienvenue dans le temps des maîtrises. La fête de Christ III est passée, l'année liturgique s'achève et nous allons rentrer en avant. Alors, il y aura un petit décalage selon qu'on écoute l'émission le mardi ou le dimanche, mais je vous propose pour les 4 semaines qui viennent de commencer l'émission par un extrait du célèbre choral de l'Avent, Nun komm der Heidenheiland. Et ce choral de Luther, qui est traduit en français par « Viens maintenant, sauveur des païens », reconnu comme fils de la Vierge, afin que le monde entier s'émerveille. Je vous en ferai écouter un petit extrait chaque semaine. Et dans un enregistrement de 2020 de la jeune maîtrise de Reims que je dirige, prise de son et montage, accompagnement à l'orgue par Benjamin Stens, et je précise que c'était en condition de confinement, les élèves étaient masqués. Donc ces élèves de CM1, CM2 à l'époque sont pour la plupart encore à la maîtrise de Reims, en classe de 4e ou 3e. Alors nous accueillons maintenant notre invité du jour, c'est Christophe Bergossi, qui est chef de chœur à la maîtrise de Metz. Christophe Bergossi, bonjour.
Bonjour, Laetitia.
Alors nous sommes voisins de maîtrise en quelque sorte, puisque vous êtes la plus proche maîtrise pour nous en allant vers l'Est.
Exactement, dans la même région.
Voilà, dans la même région. Alors est-ce que vous voulez nous présenter votre structure, vos effectifs, etc.
Bien sûr, voilà. Donc notre maîtrise, elle va fêter ses 30 ans. C'est une maîtrise qui a été créée à l'initiative de l'évêque de Metz, Monseigneur Raffin, et c'est une maîtrise qui a pour but de former les musiciens d'église du diocèse. Donc il y a plusieurs chœurs, il y a un chœur d'enfants qui est rattaché à une école privée avec des aménagements d'horaires, il y a un chœur de lycéens et un chœur d'adultes, et nous formons aussi les musiciens ou les groupes, les chœurs qui le souhaitent dans tout le diocèse. Donc c'est vraiment une école de formation pour les musiciens d'église.
Et alors, vous avez combien d'élèves ?
Alors notre effectif, il est stable depuis de nombreuses années, ils sont 80 enfants, à peu près une quarantaine au primaire et une quarantaine au collège. Après, il y a un collège vocal, donc avec quelques troisièmes et lycéens, ils sont une vingtaine, et puis une trentaine d'adultes qui eux, sont répètent pour des concerts, mais également pour animer tous les offices, toutes les messes à la cathédrale.
Et les enfants participent aussi aux offices ?
Oui, alors on est vraiment maîtrise de la cathédrale, c'est-à-dire que moi je suis en même temps directeur de la maîtrise de la cathédrale et aussi maître de chapelle. Donc j'ai la charge aussi de m'occuper de tout ce qui est musical à la cathédrale. Donc il y a une saison de culturelle, mais il y a également tous les offices, toutes les messes à organiser. Donc par roulement, effectivement, les enfants, soit on fonctionne depuis plusieurs années avec un octuor, ils sont ils doivent venir à peu près une fois par mois en octuor pour assurer les polyphonies. Et puis pour les fêtes, on a la maîtrise qui est réunie au complet. Voilà, donc c'est une alternance entre des voix d'enfants et des voix d'adultes.
Depuis la rentrée de septembre, en plus des offices, vous avez réalisé de grands projets.
Oui, on avait pas mal de concerts importants. On a la chance d'avoir des partenaires professionnels, que ce soit des orchestres symphoniques ou des orchestres baroques ou des ensembles même de jazz ou l'harmonie de Metz ou même la musique militaire. Donc on est souvent invité à chanter avec eux et là ça s'est un petit peu... peu de temps, on a donné pas mal de concerts très différents et bon, ça demande une autonomie, c'est ce qu'on travaille avec les enfants, tout le déchiffrage, voilà, être très réactif. Et donc ça a apporté ses fruits puisqu'on a pu assurer des concerts très différents en mois de septembre et d'octobre.
Donc vous avez donné la messe solennelle de Vierne, c'est ça ?
Alors exactement, là on a donné, c'était un concert qui était dans le cadre de la saison culturelle avec deux orgues, la messe en ut dièse de Vierne. Et nous avons donné aussi à cette occasion des pièces de Stanford. C'est un compositeur anglais. On fête d'ailleurs son centenaire de sa mort. Il est mort la même année que Fauré. Et donc, c'était l'occasion de donner ses pièces et de donner cette messe en ut dièse de Vierne, qui est assez connue des maîtrises. Je crois que C'est de la musique qui fonctionne très bien avec cœur d'enfant.
Et puis, vous avez donné la Messa di Gloria de Puccini.
Voilà, et 15 jours après, effectivement, nous donnions avec l'Orchestre symphonique de Thionville, l'Orchestre départemental, la Messa di Gloria de Puccini avec deux pièces de musique allemande, de musique romantique de Mendelssohn et Rheinberger. Voilà, donc c'est un moment aussi intéressant. On a la chance aussi d'avoir un chef d'orchestre qui est lui-même chanteur d'opéra, donc pour nous c'est un bonheur d'être sous sa direction.
Alors moi je propose à nos auditeurs d'entendre un extrait de votre concert, même plusieurs petits extraits de votre concert, puisqu'il y a eu une captation. Et donc nous allons écouter en premier Abendlied de Rheinberger, sous votre direction, Christophe Bergossi, la maîtrise de Metz, le 12 octobre 2024. Voilà, alors un petit extrait en plus de Mendelssohn, peut-être avant d'aborder cette Messa di Gloria de Puccini. De Puccini, un extrait de la Messa di Gloria par la maîtrise de Metz, dirigée par Christophe Bergossi.
Thank you. puis alors, avant de se quitter, j'ai entendu parler d'un projet complètement différent, une sorte de mystère, un spectacle pour toute la famille.
Oui, effectivement, on a donné un extrait de ce mystère. Nous avons à Metz légende ou l'histoire du premier évêque de Metz, Saint Clément, qui a, en arrivant à Metz, a vaincu un dragon qui s'appelait le Graouli. Et donc nous redonnons depuis les 800 ans de la cathédrale un mystère médiéval sur le parvis de la cathédrale. On raconte cette légende, enfin cette histoire, hein. Et puis également des moments de la ville de Metz, des moments historiques de la ville de Metz. Et cette année nous avions proposé aussi un parcours dans la ville avec ce Graouli qui a été fait pour l'occasion et qu'on promène dans la ville. Alors c'était le cas, il y avait une grande procession au Moyen-Âge. Et donc depuis, moi je ne l'ai jamais connu, mais c'était l'occasion de proposer aux Messins ce parcours et une espèce de petit village médiéval. Et on était très contents parce qu'il y avait énormément de monde qui a parcouru quelques rues de Metz. Et voilà, c'est un moment assez intéressant et très apprécié des touristes et des Messins.
Oui, j'imagine. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Christophe Bergoussi, nous poursuivrons la semaine prochaine pour parler des projets à venir de la maîtrise de Metz.
Merci beaucoup.
Merci à vous Laetitia Stens et à votre invité Christophe Bergoussi, directeur de la maîtrise de Metz, pour cette nouvelle émission du Temps des Maîtrises sur RCF Reims-Ardennes. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Vous écoutez RCF dans les Ardennes, à Charleville-Mézières sur le 94.6, à Vouziers sur le 98.2, à Sedan sur le 103.2 et partout en France avec l'application RCF.
Et pour vous accompagner jusqu'à 11h sur RCF Reims-Ardennes, quelques rendez-vous à noter. Le magazine de l'ICP Campus de Reims avec Audrey Ginès, ce sera dans une poignée de secondes. Elle recevra deux étudiants, Chloé et Yazid. Ils vont nous parler de leur expérience de stage. Jardin d'Hubert avec Hubert le jardinier, ce sera dans une dizaine de minutes. Et puis Vie diocésaine avec Bénédicte Cousin et Emma Japin pour tout savoir sur l'actualité et les grands rendez-vous à venir pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Notez enfin Parole d'évêque à 10h30.